Deuxième partie. Après avoir sauvé l'intéressante Virginie, j'échappe modestement à sa reconnaissance et, toujours désireux de rendre service aux belles, je profite de l'obscurité d'une nuit pluvieuse et je vais furtivement ouvrir le tombeau d'une jeune vestale que le Sénat romain eut la barbarie de faire enterrer vivante pour avoir laissé éteindre le feu sacré de Vesta, ou peut-être bien pour s'y être légèrement brûlé. Je marche en silence dans les rues de Rome, avec le charme intérieur qui précède les bonnes actions, surtout lorsqu'elles ne sont pas sans danger. J'évite avec soin le Capitole, de peur d'éveiller les bois, et me glissant à travers les gardes de la porte-colline, j'arrive heureusement au tombeau sans être aperçu. Au bruit que je fais en soulevant la pierre qui la couvre, l'infortuné détache sa tête échevelée du sol humide du caveau. Je la vois à la lueur de la lampe sépulcrale jeter autour d'elle des regards égarés. Dans son délire, la malheureuse victime croit être déjà sur les rives du Cocyte. « Oh Minos ! » s'écrie-t-elle, « oh juge inexorable ! Jamais, il est vrai, sur la terre, contre les lois sévères de Vesta. J'aimais, oui, si les dieux sont aussi barbares que les hommes, ouvre pour moi les abîmes du Tartare. J'aimais et j'aime encore. » « Non, non, tu n'es point encore dans le royaume des morts. Viens, jeune infortuné, reparais sur la terre. » Renais à la lumière et à l'amour. Cependant, je saisis sa main, déjà glacée par le froid de la tombe. Je l'enlève dans mes bras, je la serre contre mon cœur, et je l'arrache enfin de cet horrible lieu, toute palpitante de frayeur et de reconnaissance. Gardez-vous bien de croire, madame, qu'aucun intérêt personnel soit le mobile de cette bonne action. L'espoir d'intéresser en ma faveur la belle Vestale, ex-Vestale, n'entre pour rien dans tout ce que je fais pour elle, car je rentrerai ainsi dans l'ancienne méthode. Je puis assurer, parole de voyageur, qui, tant qu'a duré notre promenade, depuis la porte-colline jusqu'à l'endroit où se trouve maintenant le tombeau des Scipions, malgré l'obscurité profonde et dans les moments même où sa faiblesse m'obligeait de la soutenir dans mes bras, je n'ai cessé de la traiter avec les égards et le respect dus à ses malheurs, et je l'ai scrupuleusement rendue à son amant qui l'attendait sur la route. Une autre fois, conduit par mes rêveries, je me trouvais par hasard à l'enlèvement des Sabines. Je vis avec beaucoup de surprise que les Sabins prenaient la chose tout autrement que ne le raconte l'histoire. N'entendant rien à cette bagarre, j'offris ma protection à une femme qui fuyait, et je ne pus m'empêcher de rire en l'accompagnant, lorsque j'entendis un Sabin furieux s'écrier avec l'accent du désespoir : « Dieux immortels, mais pourquoi n'ai-je pas amené ma femme à la fête ?» Outre la moitié du genre humain à laquelle je porte une vive affection, le dirai-je, et voudra-t-on me croire, mon cœur est doué d'une telle capacité de tendresse que tous les êtres vivants, les choses inanimées elles-mêmes, en ont aussi une bonne part. Oui, j'aime les arbres qui me prêtent leur ombre, et les oiseaux qui gazouillent sous le feuillage, et le cri nocturne de la chouette, et le bruit des torrents. J'aime tout, j'aime la lune. Vous riez, mademoiselle. Il est aisé de tourner en ridicule les sentiments que l'on n'éprouve pas. Mais les cœurs qui ressemblent aux miens me comprendront. Oui, je m'attache d'une véritable affection à tout ce qui m'entoure. J'aime les chemins où je passe, la fontaine dans laquelle je bois. Je ne me sépare pas sans peine du rameau que j'ai pris au hasard dans une haie. Je le regarde encore après l'avoir jeté. Nous avions déjà fait connaissance. Je regrette les feuilles qui tombent et jusqu'aux zéphyrs qui passent. Où est maintenant celui qui agitait les cheveux noirs ? Elisa, lorsqu'assise auprès de moi sur les bords de la Doire, la veille de notre éternelle séparation, tu me regardais dans un triste silence. Où est ton regard ? Où est cet instant douloureux et chéri ? Ô temps, divinité terrible, ce n'est pas ta faute cruelle qui m'épouvante. Je ne crains que tes hideux enfants, l'indifférence et l'oubli, qui font une longue mort de ces trois quarts de notre existence. Hélas, ce zéphyr, ce regard, ce sourire, sont aussi loin de moi que les aventures d'Ariane. Il ne reste plus au fond de mon cœur que des regrets et de vains souvenirs. Triste mélange sur lequel ma vie surnage encore, comme un vaisseau fracassé par la tempête, flotte quelque temps encore sur la mer agitée, jusqu'à ce que l'eau s'introduisant peu à peu entre les planches brisées, le malheureux vaisseau disparaisse englouti dans l'abîme. Les vagues le recourent, la tempête s'apaise, et l'hirondelle de mer rase la plaine solitaire et tranquille de l'océan. Je me vois forcé de terminer ici l'explication de ma nouvelle méthode de faire l'amour, parce que je m'aperçois qu'elle tombe dans le noir. Il ne sera pas cependant hors de propos d'ajouter encore quelques éclaircissements sur cette découverte et qui ne convient pas généralement à tout le monde ni à tous les âges. Je ne conseillerais à personne de la mettre en usage à 20 ans. L'inventeur lui-même n'en usait pas à cette époque de sa vie. Pour en tirer tout le parti possible, il faut avoir éprouvé tous les chagrins de la vie sans être découragé et toutes les jouissances sans en être dégoûté. Point difficile. Elle est surtout utile à cet âge où la raison nous conseille de renoncer aux habitudes de la jeunesse et peut servir d'intermédiaire et de passage insensible entre le plaisir et la sagesse. Ce passage, comme l'ont observé tous les moralistes, est très difficile. Peu d'hommes ont le noble courage de le franchir galamment, et souvent, après avoir fait le pas, ils s'ennuient sur l'autre bord et repassent le fossé en cheveux gris et à leur grande honte. C'est ce qu'ils éviteront sans peine par ma nouvelle manière de faire l'amour. En effet, la plupart de nos plaisirs n'étant d'autre chose qu'un jeu de l'imagination, il est essentiel de lui présenter une pâture innocente pour la détourner des objets auxquels nous devons renoncer, à peu près comme l'on présente des joujoux aux enfants lorsqu'on leur refuse des bonbons. De cette manière, on a le temps de s'affermir sur le terrain de la sagesse sans penser y être encore, et l'on y arrive par le chemin de la folie, ce qui en facilitera singulièrement l'accès à beaucoup de monde. Je crois donc ne m'être point trompé dans l'espoir d'être utile qui m'a fait prendre la plume, et je n'ai plus qu'à me défendre du mouvement naturel d'amour-propre que je pourrais légitimement ressentir en dévoilant aux hommes de semblables vérités. Toutes ces confidences, ma chère Sophie, ne vous auront pas fait oublier, j'espère, la position gênante dans laquelle vous m'avez laissé sur ma fenêtre. L'opinion que m'avait causée l'aspect du joli pied de ma voisine durait encore, et j'étais plus que jamais retombé sous le charme dangereux de la pantoufle, lorsqu'un événement imprévu vint me tirer du péril où j'étais de me précipiter du cinquième étage dans la rue. Une chauve-souris qui rôdait autour de la maison et qui, me voyant immobile depuis si longtemps, me prit apparemment pour une cheminée, vint tout à coup s'abattre sur moi et s'accrocher à mon oreille. Je sentis sur ma joue l'horrible fraîcheur de ses ailes humides. Tous les échos de Turin répondirent aux cris furieux que je poussais malgré moi. Les sentinelles éloignées donnèrent le qui-vive et j'entendis dans la rue la marche précipitée d'une patrouille. J'abandonnai sans beaucoup de peine la vue du balcon qui n'avait plus aucun attrait pour moi. Le froid de la nuit m'avait saisi. Un léger frisson me parcourut de la tête aux pieds et comme je croisais ma robe de chambre pour me réchauffer, je vis, à mon grand regret, que cette sensation de froid, jointe à l'insulte de la chauve-souris, avait suffi pour changer de nouveau le cours de mes idées. La pantoufle magique n'aurait pas eu dans ce moment plus d'influence sur moi que la chevelure de Bérénice ou toute autre contellation. Je calculais tout de suite combien il était déraisonnable de passer la nuit exposé à l'intempérie de l'air, au lieu de suivre le vœu de la nature qui nous ordonne le sommeil. Ma raison, qui dans ce moment agissait seule en moi, me fit voir cela prouvé comme une proposition d'Euclide. Enfin, je fus tout à coup privé d'imagination et d'enthousiasme, et livré sans recours à la triste réalité. Existence déplorable, autant vaudrait-il être un arbre sec dans une forêt, ou bien un obélisque au milieu d'une place. Les deux étranges machines, m'écriai-je alors, que la tête et le cœur de l'homme. Emporté tour à tour par ces deux mobiles, de ces actions dans deux directions contraires, la dernière qu'il suit lui semble toujours la meilleure. Ô folie de l'enthousiasme et du sentiment, dit la froide raison. Ô faiblesse et incertitude de la raison, dit le sentiment. Qui pourra jamais, qui osera décider d'entre deux? Je pense qu'il serait beau de traiter la question sur place et de décider une bonne fois auquel de ces deux guides il convenait de me confier pour le reste de ma vie. Suivrai-je désormais ma tête ou mon cœur? Examinons. En disant ces mots, je m'aperçus d'une douleur sourde dans celui de mes pieds qui reposait sur l'échelle. J'étais en outre très fatigué de la position difficile que j'avais gardée jusqu'alors. Je me baissais doucement pour m'asseoir, et laissant pendre mes jambes à droite et à gauche de la fenêtre, je commençais mon voyage à cheval. J'ai toujours préféré cette manière de voyager à toute autre, et j'aime passionnément les chevaux. Cependant, de tous ceux que j'ai vus ou dont j'ai pu entendre parler, celui dont j'aurais le plus ardemment désiré la possession est le cheval de bois dont il est parlé dans les mille et une nuits, sur lequel on pouvait voyager dans les airs et qui portait comme l'éclair lorsqu'on tournait une petite cheville entre ses oreilles. Et l'on peut remarquer que ma monture ressemble beaucoup à celle des mille et une nuits. Par sa position, le voyage à cheval sur sa fenêtre communique d'un côté avec le ciel et jouit de l'imposant spectacle de la nature, des météores et les astres sont à sa disposition, et de l'autre, l'aspect de sa demeure et les objets qu'elle contient le ramènent à l'idée de son existence et le font rentrer en lui-même. Un seul mouvement de la tête remplace la cheville enchantée et suffit pour opérer dans l'âme du voyageur un changement aussi rapide qu'extraordinaire. Tour à tour habitant de la terre et des cieux, son esprit et son cœur parcourent toutes les jouissances qu'il est donné à l'homme d'éprouver. Je ressentis d'avance tout ce parti que je pouvais tirer de ma monture. Lorsque je me sentis bien en selle et arrangé de mon mieux, certain de n'avoir rien à craindre des voleurs ni des faux pas de mon cheval, je crus l'occasion très favorable pour me livrer à l'examen du problème dont je devais résoudre touchant la prééminence de la raison et du sentiment. Mais la première réflexion que je fis à ce sujet m'arrêta tout court. Est-ce bien à moi de m'établir juge dans une semblable cause, me dis-je tout bas, à moi qui dans ma conscience donne d'avance gain de cause au sentiment? Mais d'autre part, si j'exclus les personnes dont le cœur l'emporte sur la tête, qui pourrais-je consulter? Un géomètre, bon, ces gens-là sont vendus à la raison. Pour décider ce point, il faudrait trouver un homme qui eût reçu de la nature une égale dose de raison et de sentiment, et qu'au moment de la décision, ces deux facultés fussent parfaitement en équilibre. Chose impossible, il serait plus aisé d'équilibrer une république. Le seul juge compétent serait donc celui qui n'aurait rien de commun ni avec l'un ni avec l'autre, un homme enfin sans tête et sans cœur. Cette étrange conséquence révolta ma raison. Mon cœur, de son côté, protesta d'y avoir aucune part. Cependant, il me semblait avoir raisonné juste, et j'aurais cette occasion pris la plus mauvaise idée de mes facultés intellectuelles si je n'avais réfléchi que dans les spéculations de haute métaphysique comme celles dont il est question des philosophes du premier ordre ont été souvent conduits par les raisonnements suivis a des conséquences affreuses qui ont influé sur le bonheur de la société humaine. Je me consolais donc pendant que le résultat de mes spéculations ne ferait au moins de mal à personne. Je laissai la question indécise et je résolus, pour le reste de mes jours, de suivre alternativement ma tête ou mon cœur, suivant que l'un d'eux l'emporterait sur l'autre. Me crois en effet que c'est la meilleure méthode. Elle ne m'a pas fait faire, à la vérité, une grande fortune, puisque, me disais-je, jusqu'ici. Mais, n'importe, je vais, descendant le sentier rapide de la vie, sans crainte et sans projet, en riant et en pleurant tour à tour, et souvent à la fois, ou bien en sifflant quelques vieux airs pour me désennuyer le long du chemin. D'autres fois, je cueille une marguerite dans le coin d'une haie. J'en arrache les feuilles les unes après les autres en disant: elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. La dernière amène presque toujours pas du tout. En effet, Elisa ne m'aime plus. Tandis que je m'occupe ainsi, la génération entière des vivants passe. Semblable à une immense vague, elle va bientôt se briser avec moi sur le rivage de l'éternité. Et comme si l'orage de la vie n'était pas assez impétueux, comme s'il nous poussait trop lentement aux barrières de l'existence, les nations en masse s'égorgent au courant et préviennent le terme fixé par la nature. Des conquérants, entraînés eux-mêmes par le tourbillon rapide du temps, s'amusent à jeter des milliers d'hommes sur le carreau. Eh, messieurs, à quoi songez-vous? Attendez! Ces bonnes gens allaient mourir de leur belle mort. Ne voyez-vous pas la vague qui s'avance? Elle écume déjà près du rivage. Attendez, au nom du ciel, encore un instant! Et vous et vos ennemis, et moi et les marguerites, tout cela va finir. Peut-on s'étonner à celle d'une semblable démence? Allons, c'est un point résolu. Dorénavant, moi-même, je m'effeuillerai plus de marguerites. Après m'être fixé pour l'avenir une règle de conduite prudente au moyen d'une logique lumineuse, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, il me restait un point très important à décider au sujet du voyage que j'allais entreprendre. Ce n'est pas tout, en effet, que de se placer en voiture ou à cheval. Il faut encore savoir où l'on veut aller. J'étais si fatigué des recherches métaphysiques dont je venais de m'occuper qu'avant de me décider sur la région du globe à laquelle je donnerais la préférence, je voulus me reposer quelque temps en ne pensant à rien. C'est une manière d'exister qui est aussi de mon invention et qui m'a souvent été d'un grand avantage. Mais il n'est pas accordé à tout le monde de savoir en user. Car s'il est aisé de donner de la profondeur à ses idées en s'occupant fortement d'un sujet, il n'en est point autant d'arrêter tout à coup sa pensée comme l'on arrête le balancier d'une pendule. Molière a fort mal à propos tourné en ridicule un homme qui s'amusait à faire des ronds dans un puits. Je serais, quant à moi, très porté à croire que cet homme était un philosophe qui avait le pouvoir de suspendre l'action de son intelligence pour se reposer, opération des plus difficiles que puisse exécuter l'esprit humain. Je sais que les personnes qui ont reçu cette faculté sans l'avoir désirée et qui ne pensent ordinairement à rien, m'accuseront de plagiat et réclameront la priorité d'invention. Mais l'état d'immobilité intellectuelle dont je veux parler est tout autre que celui dont ils jouissent et dont M. Necker a fait l'apologie. Le mien est toujours volontaire et ne peut être que momentané. Pour en jouir dans toute sa plénitude, je ferme les yeux en appuyant les deux mains sur la fenêtre comme un cavalier fatigué s'appuie sur le pommeau de sa selle, et bientôt le souvenir du passé, le sentiment du présent et la prévoyance de l'avenir s'anéantirent dans mon âme. Comme ce mode d'existence favorise puissamment l'invasion du sommeil, Après une demi-minute de jouissance, je sentis que ma tête tombait sur ma poitrine. J'ouvris à l'instant des yeux et mes idées reprirent leur cours. Circonstance qui prouve évidemment que l'espèce de léthargie volontaire dont il s'agit est bien différente du sommeil, puisque je fus éveillé par le sommeil lui-même. Accident qui n'est certainement jamais arrivé à personne. En élevant mes regards vers le ciel, j'aperçus l'étoile polaire sur le faîte de la maison, ce qui me parut d'un bien bon augure au moment où j'allais entreprendre un long voyage. Pendant l'intervalle de repos dont je venais de jouir, mon imagination avait repris toute sa force et mon cœur était prêt à recevoir les plus douces impressions. Tant ce passager anéantissement de la pensée peut augmenter son énergie. Le fond de chagrin que ma situation précaire dans le monde me faisait sourdement éprouver fut remplacé tout à coup par un sentiment vif d'espérance et de courage. Je me sentis capable d'affronter la vie et toutes les chances d'infortune ou de bonheur qu'elle traîne avec elle. Astre brillant, m'écriai-je dans l'extase délicieuse qui me ravissait, incompréhensible production de l'éternelle pensée. Toi qui seul, immobile dans les cieux, veilles depuis le jour de la création sur une moitié de la terre, toi qui diriges le navigateur sur les déserts de l'océan et dont un seul regard a souvent rendu l'espoir et la vie aux matelots pressés par la tempête, si jamais, lorsqu'une nuit sereine m'a permis de contempler le ciel, je n'ai manqué de te chercher parmi tes compagnes, assiste-moi, lumière céleste. Hélas, la terre m'abandonne, sois aujourd'hui mon conseil et mon guide, apprends-moi quelle est la région du globe où je dois me fixer. Pendant cette invocation, l'étoile semblait rayonner plus vivement et se réjouir dans le ciel en m'invitant de me rapprocher de son influence protectrice. Je ne crois pas au pressentiment, mais je crois à une providence divine qui conduit les hommes par des moyens inconnus. Chaque instant de notre existence est une création nouvelle, un acte de la toute-puissante volonté. L'ordre inconstant qui produit les formes toujours nouvelles et les phénomènes inexplicables des nuages est déterminé pour chaque instant, jusque dans la moindre parcelle d'eau qui les compose. Les événements de notre vie ne sauraient avoir d'autre cause, et les attribuer au hasard serait le comble de la folie. Je puis même assurer qu'il m'est quelquefois arrivé d'entrevoir des fils imperceptibles avec lesquels la Providence fait agir les plus grands hommes comme des marionnettes, tandis qu'ils s'imaginent conduire le monde. Un petit mouvement d'orgueil qu'elle leur souffle dans le cœur suffit pour faire périr des armées entières et pour retourner une nation sans dessus-dessous. Quoi qu'il en soit, je croyais si fermement à la réalité de l'invitation que j'avais reçue de l'étoile polaire que mon parti fut pris à l'instant même d'aller vers le nord. Et quoique je n'eusse dans ces régions éloignées aucun point de préférence, ni aucun but déterminé, lorsque je partis de Turin le jour suivant, je sortis par la porte Palais qui est au nord de la ville, persuadé que l'étoile polaire ne m'abandonnerait pas. J'en étais là de mon voyage lorsque je fus obligé de descendre précipitamment de cheval. Je n'aurais pas tenu compte de cette particularité si je ne devais en conscience instruire les personnes qui voudraient adopter cette manière de voyager, des petits inconvénients qu'elle présente après leur avoir exposé les immenses avantages. Les fenêtres, en général, n'ayant pas été primitivement inventées pour la nouvelle destination que je leur ai donnée, les architectes qui les construisent négligent de leur donner la forme commode et arrondie d'une selle anglaise. Le lecteur intelligent comprendra, je l'espère, sans autre explication, la cause douloureuse qui me força de faire une halte. Je descendis assez péniblement et je fis quelques tours à pied dans la longueur de ma chambre pour me dégourdir, en réfléchissant sur le mélange de peine et de plaisir dont la vie est parsemée, ainsi que sur l'espèce de fatalité qui rend les hommes esclaves des circonstances les plus insignifiantes. Après quoi, je m'empressai de remonter à cheval, muni d'un coussin d'édredon. Ce que je n'aurais pas osé faire quelques jours auparavant, de crainte d'être hué par la cavalerie. Mais ayant rencontré la veille aux portes de Turin un parti de Cosaques qui arrivait sur de semblables coussins des bords de Palusma et Senonis et de la mer Caspienne, je crus, sans déroger aux lois de l'équitation, que je respecte beaucoup, pouvoir accepter le même usage. Délivré de la sensation désagréable que j'ai laissé deviner, je pus m'occuper sans inquiétude de mon plan de voyage. Une des difficultés qui me tracassait le plus, parce qu'elle tenait à ma conscience, était de savoir si je faisais bien ou mal d'abandonner ma patrie, dont la moitié m'avait elle-même abandonné. Une semblable démarche me semblait trop importante pour m'y décider légèrement. Et en réfléchissant sur ce mode de patrie, je m'aperçus que je n'en avais pas une idée bien claire. Ma patrie, mais en quoi consiste la patrie? Serait-ce un assemblage de maisons, de champs, de rivières? Je ne saurais le croire. C'est peut-être ma famille, mes amis qui constituent ma patrie, mais ils l'ont déjà quittée. Ah, mais voilà, c'est le gouvernement, mais il est changé. Bon Dieu, mais où donc est ma patrie? Je passai la main sur mon front dans un état d'inquiétude inexprimable. L'amour de la patrie est tellement énergique. Les regrets que j'éprouvais moi-même à la seule pensée d'abandonner la mienne m'en prouvaient si bien la réalité que je serais resté à cheval toute ma vie plutôt que de désemparer avant d'avoir coulé à fond cette difficulté. Je vis bientôt que l'amour de la patrie dépend de plusieurs éléments réunis, c'est-à-dire de la longue habitude que prend l'homme depuis son enfance, des individus, de la localité et du gouvernement. Il ne s'agissait plus que d'examiner en quoi ces trois bases contribuent, chacune pour leur part, à constituer la patrie. L'attachement à nos compatriotes en général dépend du gouvernement et n'est autre chose que le sentiment de la force et du bonheur qui nous donne en commun. Car le véritable attachement se borne à la famille et à un petit nombre d'individus dont nous sommes environnés immédiatement. Tout ce qui rompt l'habitude ou la facilité de se rencontrer rend les hommes ennemis. Une chaîne de montagnes forme de part et d'autre des ultramontains qui ne s'aiment pas. Les habitants de la rive droite d'un fleuve se croient fort supérieurs à ceux de la rive gauche, et ceux-ci se moquent à leur tour de leurs voisins. Cette disposition se remarque jusque dans les grandes villes, partagées par un fleuve, malgré les ponts qui régissent ses bords. La différence du langage éloigne bien davantage encore les hommes du même gouvernement. Enfin, la famille elle-même, dans laquelle réside notre véritable affection, est souvent dispersée dans la patrie. Elle change continuellement dans la forme et dans le nombre. En outre, elle peut être transportée. Ce n'est donc ni dans nos compatriotes, ni dans notre famille que réside absolument l'amour de la patrie. La localité contribue pour le moins autant à l'attachement que nous portons à notre pays natal. Il se présente à ce sujet une question fort intéressante. On a remarqué de tout temps que les montagnards sont de tous les peuples ceux qui sont le plus attachés à leur pays, et que les peuples nomades habitent en général les grandes plaines. Quelle peut être la cause de cette différence dans l'attachement de ces peuples à la localité? Bien, si je ne me trompe, la voici. Dans les montagnes, la patrie a une physionomie. Dans les plaines, elle n'en a point. C'est une femme sans visage qu'on ne saurait aimer malgré toutes ses bonnes qualités. Que reste-t-il en effet de sa patrie locale à l'habitant d'un village de bois, lorsqu'après le passage de l'ennemi, le village est brûlé et les arbres coupés? Le malheureux cherche en vain dans la ligne uniforme de l'horizon quelque objet connu qui puisse lui donner des souvenirs. Il n'en existe aucun. Chaque point de l'espace lui présente le même aspect, le même intérêt. Cet homme est nomade par le fait, à moins que l'habitude du gouvernement ne le revienne. Mais son habitation sera ici ou là, n'importe. Sa patrie est partout, le gouvernement a son action. Il n'aura qu'une demi-patrie. Le montagnard s'attache aux objets qu'il a sous les yeux depuis son enfance et qui ont des formes visibles et indestructibles. De tous les points de la vallée, il voit et reconnaît son chant sur le penchant de la côte. Le bruit du torrent qui bouillonne entre les rochers n'est jamais interrompu. Le sentier qui conduit au village se détourne auprès d'un bloc immuable de granit. Il voit en songe le contour des montagnes qui est peint dans son cœur, comme, après avoir regardé longtemps les vitraux d'une fenêtre, on les voit encore en fermant les yeux. Le tableau gravé dans sa mémoire fait partie de lui-même et ne s'efface jamais. Enfin, les souvenirs eux-mêmes se rattachent à la localité. Mais il faut qu'elle ait des objets dont l'origine soit ignorée et dont on ne puisse prévoir la fin. Les anciens édifices, les vieux ponts, tout ce qui porte le caractère de grandeur et de longue durée, remplace en partie les montagnes dans l'affection des localités. Cependant, les monuments de la nature ont plus de puissance sur le cœur. Pour donner à Rome un surnom digne d'elle, les orgueilleux romains l'appelèrent la ville aux sept collines. L'habitude prise ne peut jamais être détruite. Le montagnard, à l'âge mûr, ne s'affectionne plus aux localités d'une grande ville, et l'habitant des villes ne saurait devenir un montagnard. De là vient peut-être qu'un des plus grands écrivains de nos jours, qui a peint avec génie les déserts de l'Amérique, a trouvé les Alpes mesquines et le Mont Blanc considérablement trop petits. La part du gouvernement est évidente. Il est la première base de la patrie. C'est lui qui produit l'attachement réciproque des hommes et qui rend plus énergique celui qu'il porte naturellement à la localité. Lui seul, par des souvenirs de bonheur ou de gloire, peut les attacher au sol qui les a vus naître. Le gouvernement est-il bon? La patrie est dans toute sa force. Devient-il vicieux? La patrie est malade. Change-t-il? Elle meurt. C'est alors une nouvelle patrie et chacun le maître de l'adopter ou d'en choisir une autre. Lorsque toute la population d'Athènes quitta cette ville sur la foi de Thémistocle, les Athéniens abandonnèrent-ils leur patrie ou l'emportèrent-ils avec eux sur leur vaisseau? Lorsque Coriolan... Oh bon Dieu, dans quelle discussion me suis-je engagé? J'oublie que je suis à cheval sur ma fenêtre. J'avais une vieille parente de beaucoup d'esprit dont la conversation était des plus intéressantes. Mais sa mémoire, à la fois inconstante et fertile, la faisait passer souvent d'épisodes en épisodes et de digressions en digressions, au point qu'elle était obligée d'implorer le secours de ses auditeurs. « Oh, que voulais-je donc vous raconter ?» disait-elle. Et souvent aussi ses auditeurs l'avaient oublié, ce qui jetait toute la société dans un embarras inexprimable. Or, l'on a pu remarquer que le même accident m'arrive souvent dans mes narrations, et je dois convenir en effet que le plan et l'ordre de mon voyage sont exactement calqués sur l'ordre et le plan des conversations de ma tante. Mais je ne demande main forte à personne, parce que je me suis aperçu que mon sujet revient de lui-même, et au moment où je m'y attends le moins. Les personnes qui n'approuveront pas ma dissertation sur la patrie doivent être prévenues que, depuis quelque temps, le sommeil s'emparait de moi, malgré les efforts que je faisais pour le combattre. Cependant, je ne suis pas bien sûr maintenant si je m'endormis alors tout de bon et si les choses extraordinaires que je vais raconter furent l'effet d'un rêve ou d'une vision surnaturelle. Je vis descendre du ciel un nuage brillant qui s'approchait de moi peu à peu et qui recouvrait comme d'un voile transparent une jeune personne de 22 à 23 ans. Je chercherai vainement des expressions pour décrire le sentiment que son aspect me fit éprouver. Sa physionomie, rayonnante de beauté et de bienveillance, avait le charme des illusions de la jeunesse et était douce comme les rêves de l'avenir. Son regard, son paisible sourire, tous ses traits enfin réalisaient à mes yeux l'être idéal que cherchait mon cœur depuis si longtemps et que j'avais désespéré de rencontrer jamais. Tandis que je la contemplais dans une extase délicieuse, je vis briller l'étoile polaire entre les boucles de sa chevelure noire que soulevait le vent du nord, et au même instant des paroles consolatrices se firent entendre. Que dis-je des paroles? Mais c'était l'expression mystérieuse de la pensée céleste qui dévoilait l'avenir à mon intelligence, tandis que mes sens étaient enchaînés par le sommeil. C'était une communication prophétique de l'astre favorable que je venais d'invoquer et dont je vais tâcher d'exprimer le sens dans une langue humaine. « Ta confiance en moi ne sera point trompée, » disait une voix dont le timbre ressemblait au son des harpes éoliennes. « Regarde, voici la compagne que je t'ai réservée. Voici le bien auquel aspirent vainement les hommes qui pensent que le bonheur est un calcul et qui demandent à la terre ce qu'on ne peut obtenir que du ciel. » À ces mots, le météore rentra dans la profondeur des cieux. L'aérienne divinité se perdit dans les brumes de l'horizon. Mais en s'éloignant, elle jeta sur moi des regards qui remplirent mon cœur de confiance et d'espoir. Aussitôt, brûlant de la suivre, je piquai des nœuds de toute ma force, et comme j'avais oublié de mettre des éperons, je frappai du talon droit contre l'angle d'une tuile avec tant de violence que la douleur me réveilla en sursaut. Cet accident en fut un avantage réel pour la partie géologique de mon voyage, parce qu'il me donna l'occasion de connaître exactement la hauteur de ma chambre au-dessus des couches d'alluvion qui forment le sol sur lequel est bâtie la ville de Turin. Mon cœur palpitait fortement et je venais d'en compter 3 battements et demi depuis l'instant où j'avais piqué mon cheval, lorsque j'entendis le bruit de ma pantoufle qui était tombée dans la rue, ce qui, calcul fait du temps que mettent les corps graves dans leur chute accélérée et de celui qu'avaient empouillé les ondulations sonores de l'air pour venir de la rue à mon oreille, détermine la hauteur de ma fenêtre à 94 pieds 3 lignes et 9 dixièmes de ligne depuis le niveau du pavé de Turin, supposant que mon cœur agité par le rêve battait 120 fois par minute, ce qui ne peut être éloigné de la vérité. Ce n'est que sous le rapport de la science qu'après avoir parlé de la pantoufle intéressante de ma belle voisine, j'ai osé faire mention de la mienne. Aussi je préviens que ce chapitre est absolument fait et que pour les savants. La brillante vision dont je venais de jouir me fit sentir plus vivement, à mon réveil, toute l'horreur de l'isolement dans lequel je me trouvais. Je me promenais, mes regards autour de moi, et je ne vis plus que des toits et des cheminées. Hélas, suspendu au 5e étage entre le ciel et la terre, environné d'un océan de regrets, de désirs et d'inquiétudes, je ne tenais plus l'existence que par une lueur incertaine d'espoir. Appui fantastique dont j'avais éprouvé trop souvent la fragilité. Le doute rentra bientôt dans mon cœur, encore tout meurtri des mécomptes de la vie, et je crus fermement que l'étoile polaire s'était moquée de moi. Injuste et coupable défiance, dont l'astre m'a puni par 10 ans d'attente. Oh, si j'avais pu prévoir alors que toutes ces promesses seraient accomplies et que je retrouverais un jour sur la terre l'être adoré dont je n'avais fait qu'entrevoir l'image dans le ciel. Chère Sophie, si j'avais su que mon bonheur surpasserait toutes mes espérances. Mais il ne faut pas anticiper sur les événements. Je reviens à mon sujet, ne voulant pas intervertir l'ordre méthodique et sévère auquel je me suis assujetti dans la rédaction de mon voyage. L'horloge du clocher de Saint-Philippe sonna lentement minuit. Je comptai l'un après l'autre chaque tintement de la cloche, et le dernier m'arracha un soupir. Voilà donc, me dis-je, un jour qui vient de se détacher de ma vie. Et quoique les vibrations décroissantes du son de l'airain frémissent encore à mon oreille, la partie de mon voyage qui a précédé minuit est déjà tout aussi loin de moi que le voyage d'Ulysse ou celui de Jason. Dans cet abîme du passé, les instants et les siècles ont la même longueur. Et l'avenir a-t-il plus de réalité? Ce sont deux néants entre lesquels je me trouve en équilibre, comme sur le tranchant d'une lame. En vérité, le temps me paraît quelque chose de si inconcevable que je serais tenté de croire qu'il n'existe réellement pas, et que ce qu'on nomme ainsi n'est autre chose qu'une punition de la pensée. Je me réjouissais d'avoir trouvé cette définition du temps, aussi ténébreuse que le temps lui-même, lorsqu'une autre horloge sonna minuit, ce qui me donna un sentiment désagréable. Il me reste toujours un fond d'humeur lorsque je me suis inutilement occupé d'un problème insoluble, et je trouvais fort déplacé ce second avertissement de la cloche à un philosophe comme moi. Mais j'éprouvais décidément un véritable dépit, quelques secondes après, lorsque j'entendis de loin une troisième cloche, celle du couvent des Capucins, située sur l'autre rive du Pô, sonner encore minuit, comme par malice. Lorsque ma tante appelait une ancienne femme de chambre, un peu revêche qu'elle affectionnait cependant beaucoup, elle ne se contentait pas, dans son impatience, de sonner une fois, mais elle tirait sans relâche le cordon de la sonnette jusqu'à ce que la suivante parût. « Arrivez donc, mademoiselle Branchet !» Et celle-ci, fâchée de se voir pressée ainsi, venait tout doucement et répondait avec beaucoup d'aigreur avant d'entrer au salon « On y va, madame, on y va !» Tel fut aussi le sentiment d'humeur que j'éprouvais lorsque j'entendis la cloche indiscrète des Capucins sonner minuit pour la troisième fois. « Oui, je le sais !» m'écriai-je en étendant les mains du côté de l'horloge. « Oui, je le sais qu'il est minuit, je ne le sais que trop !» C'est, il n'en faut pas douter, par un conseil insidieux de l'esprit malin, que les hommes ont chargé cette heure de diviser leurs jours. Renfermés dans leurs habitations, ils dorment ou s'amusent, tandis qu'elles coupent un des fils de leurs existences. Le lendemain, ils se lèvent gaiement, sans se douter le moins du monde qu'ils ont un jour de plus. En vain la voix prophétique de l'airain leur annonce l'approche de l'éternité. En vain elle le répète tristement chaque heure qui vient de s'écouler. Ils n'entendent rien ou, s'ils entendent, ils ne comprennent pas. Ô minuit, heure terrible! Oh, je ne suis pas superstitieux, mais cette heure m'inspira beaucoup une espèce de crainte, toujours. Et j'ai le pressentiment que, si jamais je venais à mourir, ce serait à minuit. Je mourrais donc un jour. Mais comment je mourrais? Moi qui parle, moi qui me sens et qui me touche, je pourrais mourir? J'ai quelque peine à le croire. Car enfin, que les autres meurent, rien n'est plus naturel. On voit cela tous les jours. On les voit passer, on s'y habitue. Mais mourir soi-même, mourir en personne, c'est un peu fort. Et vous, messieurs, qui prenez ces réflexions pour du galimatia, apprenez que telle est la manière de penser de tout le monde, et la vôtre vous-même. Personne ne songe qu'il doit mourir. S'il existait une race d'hommes immortels, l'idée de la mort les effraierait plus que nous. Il y a là-dedans quelque chose que je ne m'explique pas. Comment se fait-il que les hommes, sans cesse agités par l'espérance et par les chimères de l'avenir, s'inquiètent si peu de ce que cet avenir leur offre de certain et d'inévitable? Ne serait-ce point la nature bienfaisante, elle-même, qui nous aurait donné cette heureuse insouciance, afin que nous puissions remplir en paix notre destinée? Je crois, en effet, que l'on peut être fort honnête homme sans ajouter au mot « réel de la vie » cette tournure d'esprit qui porte aux réflexions lugubres, et sans se troubler l'imagination par de noirs fantômes. Enfin, je pense qu'il faut se permettre de rire, ou du moins de sourire, toutes les fois que l'occasion innocente s'en présente. Ainsi finit la méditation que m'avait inspirée l'horloge de Saint-Philippe. Je l'aurais poussé plus loin s'il m'était survenu quelques scrupules sur la sévérité de la morale que je venais d'établir. Mais, ne voulant pas approfondir ce doute, je sifflais l'air des Folies d'Espagne, qui a la propriété de changer le cours de mes idées lorsqu'elles s'acheminent mal. L'effet en fut si prompt que je terminai sur le champ ma promenade à cheval. Avant de rentrer dans ma chambre, je jetai un coup d'œil sur la ville et la campagne sonore de tombe de Turin, que j'allais quitter peut-être pour toujours, et je leur adressai mes derniers adieux. Jamais la nuit ne m'avait paru si belle, jamais le spectacle que j'avais sous les yeux ne m'avait intéressé si vivement. Après avoir salué la montagne et le temple de Superga, je pris congé des tours, des clochers, de tous les objets connus que je n'aurais jamais cru pouvoir regretter avec tant de force, et de l'air du ciel et du fleuve dont le sourd murmure semblait répondre à mes adieux. Oh, si je savais peindre le sentiment tendre et cruel à la fois qui remplissait mon cœur, et tous les souvenirs de la belle moitié de ma vie écoulée, qui se pressaient autour de moi comme des farfadets pour me retenir à Turin. Mais hélas, les souvenirs du bonheur passé sont les rides de l'âme. Lorsque l'on est malheureux, il faut les chasser de sa pensée, comme des fantômes moqueurs qui viennent insulter à notre situation présente. Il vaut mille fois mieux alors s'abandonner aux illusions trompeuses de l'espérance, et surtout, il faut faire bonne mine à mauvais jeu, et se bien garder de mettre personne dans la confidence de ses malheurs. J'ai remarqué dans les voyages ordinaires que j'ai faits parmi les hommes, qu'à force d'être malheureux, on finit par devenir ridicule. Dans ces moments affreux, rien n'est plus convenable que la nouvelle manière de voyager dont on vient de lire la description. J'en fis alors une expérience décisive. Non seulement je parvins à oublier le passé, mais encore à prendre bravement mon parti sur mes peines présentes. Le temps les emportera, me dis-je pour me consoler. Il prend tout et n'oublie rien en passant. Et soit que nous voulions l'arrêter, soit que nous le poussions, comme on dit, avec l'épaule, nos efforts ont également vain et ne changent rien son cours invariable. Quoique je m'inquiète en général très peu de sa rapidité, il a telle circonstance, telle filiation d'idées, qui me la rappelle d'une manière frappante. C'est lorsque les hommes se taisent, lorsque le démon du bruit est muet au milieu de son temple, au milieu d'une ville endormie, c'est alors que le temps élève sa voix et se fait entendre à mon âme. Le silence et l'obscurité deviennent ses interprètes et me dévoilent sa marche mystérieuse. Ce n'est plus un être de raison que ne peut saisir ma pensée, mes sens eux-mêmes l'aperçoivent. Je le vois dans le ciel qui chasse devant lui les étoiles vers l'Occident. Le voilà qui pousse les fleuves à la mer et qui roule avec le brouillard le long de la colline. J'écoute. Les vents gémissent sous l'effort de ses ailes rapides et la cloche lointaine frémit à son terrible passage. Profitons, profitons de sa course, m'écriai-je. Je veux employer utilement les instants qu'il m'a enlevés. Et voulant tirer parti de cette bonne résolution, à l'instant même, je me penchai en avant pour m'élancer courageusement dans la carrière en faisant avec la langue un certain claquement qui fut décidé de tout temps à pousser les chevaux, mais qu'il est impossible d'écrire selon les règles de l'orthographe. Et je terminais mon excursion à cheval par une galopade. Je soulevais mon pied droit pour descendre lorsque je me sentis frappé assez rudement sur l'épaule. Dire que je ne fus point effrayé de cet accident serait trahir la vérité, et c'est ici l'occasion de faire observer au lecteur et de lui prouver, sans trop de vanité, combien il serait difficile à tout autre qu'à moi d'exécuter un semblable voyage. En supposant au nouveau voyageur mille fois plus de moyens et de talents pour l'observation que je n'en puis avoir, pourrait-il se flatter de rencontrer ces aventures aussi singulières, aussi nombreuses, que celles qui me sont arrivées dans l'espace de 4 heures et qui tiennent évidemment à ma destinée? Si quelqu'un en doute, qu'il essaye de deviner qui m'a frappé. Dans le premier moment de mon trouble, ne réfléchissant pas à la situation dans laquelle je me trouvais, je crus que mon cheval avait rué et qu'il m'avait cogné contre un arbre. Dieu sait combien d'idées funestes se présentèrent à moi pendant le court espace de temps que je mis à tourner la tête pour regarder dans ma chambre. Et je vis alors, comme il arrive souvent dans les choses qui paraissent le plus extraordinaires, que la cause de ma surprise était toute naturelle. La même bouffée de vent qui, dans le commencement de mon voyage, avait ouvert ma fenêtre et fermé ma porte en passant, et dont une partie s'était glissée entre les rideaux de mon lit, rentrait alors dans ma chambre avec fracas. Elle ouvrit brusquement la porte et sortit par la fenêtre en poussant le vitrage contre mon épaule, ce qui me causa la surprise dont je viens de parler. On se rappellera que c'était à l'invitation que m'avait apporté ce coup de vent que j'avais quitté mon lit. Et la secousse que je venais de recevoir était bien évidemment une invitation d'y rentrer, à laquelle je me crus obligé de me rendre. Il est beau, sans doute, d'être ainsi dans une relation familière avec la nuit, le ciel et les météores, et de savoir tirer parti de leur influence. Ah, les relations qu'on est forcé d'avoir avec les hommes sont bien plus dangereuses. Combien de fois n'ai-je pas été la dupe de ma confiance en ces messieurs? J'en disais même ici quelque chose dans une note que j'ai supprimée, parce qu'elle s'est trouvée plus longue que le texte entier, ce qui m'aurait altéré les justes proportions de mon voyage, dont le petit volume est le plus grand mérite. Fin de l'expédition nocturne.